Salut, Luc.
Allô.
Bon, les fameux scénarios, les prévisions de Québec ont été sorties. Ça a pris beaucoup de pression, mais finalement, avec un peu de récalcitrance, Québec les a dévoilés aujourd'hui. Le spectre, OK, le bon scénario, il pourrait y avoir 1263 décès d'ici le 30 avril dans le scénario catastrophe qui est à peu près repoussé par les experts, là, près de 9000 morts. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on trouve dans ces scénarios?
Ben, c'est la différence. Tu sais, ils ont pris la différence entre l'Italie et l'Allemagne pour expliquer ces deux scénarios-là.
Oui.
Et je les comprends d'avoir introduit l'idée selon laquelle on était plus dans une courbe qui ressemblait à celle de l'Allemagne que celle de l'Italie. Mais je comprends aussi la santé publique de pas vouloir s'avancer trop et d'avoir voulu mettre deux scénarios et non pas juste un. Pourquoi? Parce que, comme ils l'ont dit très, très souvent, s'il y a relâchement, par exemple, il y a 541 CHSLD ou maisons d'accueil ou dans lequel le COVID-19 est rentré. Il y a un cas, par exemple, où il y a 105 personnes qui sont touchées. Imagine-toi que ça se produit encore à quelques reprises.
Oui.
Et là, boum, on vient de changer tout de suite la donne. Là. Ça prend pas tant que ça de choses pour que ça change. Là. Il suffirait, par exemple, un relâchement, ça rentre par le personnel de sécurité ou par le personnel soignant ou par des gens qui ne respectent pas les consignes. On a une dizaine de centres d'accueil qui sont touchés et on vient de changer de scénario. Donc, c'est important de, puis ils l'ont dit et dit, redit, de garder le cap. La différence entre le scénario optimiste et le scénario pessimiste, c'est le débordement, c'est pas le nombre de morts. Le nombre de morts, c'est triste, là. C'est toujours triste, le nombre de morts. Mais ce qu'on verrait au quotidien, c'est pas juste des enterrements. Ce qu'on verrait, c'est l'effondrement du système de santé. Puis pourquoi? Le système de santé, puis pourquoi c'est grave aussi? D'abord, pourquoi? Dans le scénario allemand, on va l'appeler le scénario allemand, ou ben, ça pourrait être allemand, Nouvelle-Zélande, Norvège, tu as 450 personnes en soins intensifs en permanence. Puis dans l'autre, tu en as 1000. Comme on a 633 lits, ça veut dire que tu as 400 personnes que tu devrais mettre aux soins intensifs puis que tu ne peux pas mettre aux soins intensifs. Et là, tu dois choisir qui tu mets aux soins intensifs. C'est ça le fameux drame qui s'est passé dans beaucoup de pays où il y a un débordement. L'autre élément qui se produit, qui est frappant, c'est les hospitalisations. Si tu as 600 hospitalisations dans le cas du scénario allemand, puis que tu en as 3000 dans le scénario italien, la différence entre les deux, c'est qu'il y a des gens qui sont hospitalisés dans des gymnases. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu n'as pas 3000 lits disponibles, à ma connaissance. Ils ne l'ont pas mentionné dans le document, mais à ma connaissance, et tous les chiffres qu'on a eu jusqu'à date, tu n'as pas 3000 lits disponibles. En tout cas, en Europe, ce qui s'est passé, c'est que dans tous les pays où il y a eu le scénario pessimiste, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont obligés d'hospitaliser des gens qui sont dans des conditions très, très, très différentes.
Oui.
L'autre.
Mais Luc, j'en profite juste pour faire la précision que j'essaie de faire le plus souvent possible.
Vas-y.
L'idée ici, c'est évidemment d'éviter des décès, mais c'est d'éviter que le système de santé québécois soit surchargé, surchauffe, s'écroule. Et c'est ce qu'on a vu en Italie. Aplatir la courbe, c'est tu vas peut-être avoir bien du monde malade, mais pas tous en même temps.
Ben, c'est ça. Moi, j'aime plus ton troisième verbe que ton premier. Quand tu dis surchargé, on comprend que les gens travaillent fort, puis s'écroule, on comprend qu'il y a quelque chose qui marche vraiment pas bien.
Oui.
Et on est plus dans le troisième, puis je vais te dire pourquoi. Bon, premièrement, tu as le manque de respirateurs. Le manque de respirateurs, ça veut dire que ça augmente le nombre de morts. Après ça, tu as le manque d'équipement de protection. Et là, tu n'augmentes pas juste le nombre de morts, tu augmentes le nombre de morts dans le personnel soignant. Donc, là, tu as un cercle vicieux, c'est que tu as de moins en moins d'infirmières, puis de moins en moins de tu es obligé de faire appel à des médecins qui viennent de d'autres régions parce qu'il y en a qui meurent parce qu'ils n'ont pas le matériel en place. Et aussi, et surtout, puis c'est surtout ça le point, je pense, qui n'est pas assez expliqué, c'est que le débordement a un impact sur le fonctionnement normal du système de santé, c'est-à-dire les gens qui sont malades de d'autres choses que le coronavirus. Actuellement, il y a eu énormément de reports d'opérations,
oui.
Puis pas des petites affaires, là, pas des mal de genoux. T'as mal au genou, c'est correct, t'es en temps de coronavirus, tu vas être obligé de te farcir Netflix pendant plus longtemps. Mais il y a eu des hémorragies au cerveau. Il y a eu des opérations où la personne attendait depuis des mois parce qu'elle a le cancer, puis qu'elle s'attendait à une opération et elle a été reportée. Et ça augmente aussi le nombre de morts. En d'autres mots, le débordement, c'est pas juste une surcharge de travail, le débordement tue. Il tue du monde.
Oui, parce que si les hôpitaux sont surchargés, ce qu'il faut se dire, là, moi j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais c'est des vieux, puis de toute façon, ils vont mourir. » Puis regarde en Suède, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas scraper l'économie pour ça. en Suède, sont en train de... Il y a un débat, OK? Là, ouais, disons ça comme ça. Puis l'autre affaire, si tu penses que ça ne te concerne pas, ben si tu fais une crise cardiaque ou si ton conjoint fait une crise cardiaque, si les hôpitaux sont surchargés, ça se peut qu'on ne puisse pas les soigner. Absolument. C'est ça le scénario catastrophe aussi.
Absolument, c'est ça. Des problèmes cardiaques qui étaient en fil... Bon, évidemment, les pires cas sont sans doute pris en considération, là, mais il y a des gens qui sont sur la file d'attente, là, qui attendaient. Il y a eu des témoignages dans les journaux qui attendaient depuis des mois et des mois leur opération et elle a été reportée. Il faut se demander quand même pourquoi on est dans le scénario allemand puis pas dans le scénario italien. Puis il y a des bonnes choses qui ont été faites puis qui doivent continuer d'être faites. La première chose, évidemment, on le sait, là, c'est la fermeture hâtive des écoles. Après ça, il y a l'augmentation du nombre de tests. Ça, là, c'est ce qui fait la différence dans tout, parce que dans tous les pays. Parce que si tu attends trop pour faire des tests, tu testes des malades très graves. Tandis que si tu as les tests dès le départ puis tu testes beaucoup, beaucoup de monde, tu testes des gens qui l'ont attrapé, puis tu les, avant qu'ils soient très, très malades, et tu les isoles. Et tu les isoles des autres personnes. Et c'est ça la différence dans tout. Et parce que c'est dur à comprendre, là. Comme, tu sais, l'Allemagne puis l'Italie, là, ils ont à peu près le même nombre de personnes âgées. Ils ont à peu près le même nombre de tests. Ils ont à peu près le même nombre de personnes atteintes. Ils ont tout ça pareil. Puis dans un cas, il y a 12 fois plus de morts, 12 fois plus de morts que dans l'autre cas. Bien, c'est ça la différence, c'est que tu as testé des gens, tu as su qu'ils étaient, que tu as eu le temps de leur demander à qui tu as parlé, où tu es allé, est-ce que tu as parlé à ta famille, est-ce que tu es allé au travail, et d'appeler tous ces gens-là, puis leur dire « vous vous isolez ». Et c'est ce qui fait la grosse différence.
Et Luc, aussi, il faut accepter, je pense, qu'il y a une part d'inconnu, il y a une part d'angle mort, on ne connaît pas tout. Sur cette maladie-là, on ne connaît pas tout sur le traitement, on ne connaît pas tout sur le dépistage, on ne connaît pas tout sur la façon dont ça se propage. Il y a des leçons qui vont être tirées quand la poussière va retomber aussi.
Bien, tellement, Patrick, parce que moi, je m'arrache les yeux à essayer de comprendre les différences du nombre de morts entre des pays frères en Europe, Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne, Angleterre, puis surtout New York versus Los Angeles ou des choses comme ça. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les différences sont trop grandes. Et on va en apprendre dans les prochaines années, c'est certain. Peut-être qu'il y a des choses qu'on comprend aussi, peut-être des choses pour qui nous donnent des indications sur ce qui va se passer. En Chine, ils craignent beaucoup la deuxième vague. Les cinémas ont été réouverts. Ils ont été refermés une semaine après avoir été réouverts. D'abord parce qu'il y avait juste une personne par cinéma, mais aussi parce qu'ils craignent beaucoup, beaucoup les cas asymptomatiques. Ils ont commencé à publier le nombre de cas asymptomatiques. Et aussi, en Chine, il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas été touchées par le coronavirus. Et leur grande crainte, c'est que des cas asymptomatiques aillent retoucher ces personnes-là, que ces personnes-là, tu as vu la communication qu'il y a entre la Chine et le reste du monde, ça prend 2 semaines pour que le reste du monde soit touché. Donc, on reste vigilant.
Je te dirais, Luc, que les scientifiques ont ressorti leur livre de pandémie. Puis la dernière pandémie, c'est 1918-19 et c'était la grippe espagnole. Et il y a eu une deuxième vague qui a été plus meurtrière.
Voilà. Puis Dieu sait qu'on ne peut pas se payer une deuxième vague. Puis une autre affaire aussi, peut-être qu'on apprend là, une comparaison avec la grippe. Je sais que dans les radios de Québec, ils ont dit « c'est pas si pire, la grippe tue à chaque année, ta-ta-ta-ta-ta ». Là, on les a, les données sont noires sur blanc. Puis la science, c'est que le COVID envoie 10 fois plus de monde à l'hôpital et tue 15 fois plus de monde que la grippe.
Et la grippe ne surcharge pas tout le système hospitalier comme la COVID l'a fait ailleurs.
Voilà.
OK, merci Luc. 17h27, on va se reparler demain.
Merci à toi.
Pierre-Yves Maxwin s'en vient. Merci d'être là. On prend quelques secondes pour les annonceurs.